Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce mardi 2 novembre. Avec vous, Christophe Mallet et Jean-Noël Ducasse pour une heure en français. Et au cours de cette émission, le journal Les Sports, le journal de la semaine en France et un coup de projecteur sur l'Alliance française de Melbourne au mois de novembre. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Et tout d'abord, les titres, les grands titres de ce 2 novembre, les Verts accusent Scott Morrison d'avoir menti aux dirigeants du monde sur l'action climatique de l'Australie pour éviter un examen international. Le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud annonce des modifications à la feuille de route de réouverture de l'État. Et en sport, les fans de courses de chevaux sont à Flemington pour la Melbourne Cup ce mardi. Le Premier ministre Scott Morrison a prononcé la déclaration de l'Australie lors du sommet de la COP26 à Glasgow. Il déclare que l'action et l'investissement climatique doivent se concentrer sur l'adaptation et pas seulement sur la réduction des émissions.
The challenge of combating climate change will be met the same way. And it will be met by those who frankly are largely not in this room. It will be our scientists, our technologists, our engineers, our entrepreneurs, our industrialists and our financiers that will actually chart the path to net zero. And it is up to us, as leaders of governments, to back them in.
Les Verts ont accusé Scott Morrison d'avoir menti aux dirigeants mondiaux sur les objectifs climatiques de l'Australie. Le chef des Verts, Adam Bent, a déclaré que l'engagement écrit formel de Scott Morrison au sommet sur le climat indique que l'Australie ne promet de réduire la pollution que de 26%. Mais dans son discours, il a déclaré que l'Australie réduirait la pollution de 35%.
He lied. He stood up to the rest of the world and straight out lied. And said all of a sudden, Australia is going for a higher 35% target. Knowing he would be slammed for his woeful 2030 targets, Scott Morrison has just lied to world leaders about them instead. Scott Morrison is sabotaging global climate action.
Oxfam affirme que le gouvernement australien manque d'ambition, tandis que le conseiller en chef pour le climat, le professeur Tim Flannery, affirme que le discours de Scott Morrison était peu crédible.
There were some good things in it, some new things. You know, there's a doubling of financing for developing countries, which is great. There's a new commitment to protect forests and draw down carbon through forests in the Southwest Pacific, which was good as well. But there were two words that really worried me. In the speech, he said that over time, the Australian way can deliver net zero. And the one thing we don't have is time. The Australian way looks like an Australian crawl.
Revenons sur les discours d'ouverture au sommet de la COP26 à Glasgow. Pour Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, il faut sauver la planète.
And it's time to say enough. We are digging our own graves. Recent climate action announcements might give the impression that we are on track to turn things around. This is an illusion. Failure is a death sentence.
Le militant écologiste Sir David Attenborough a déclaré au délégué de la conférence de Glasgow qu'il devait transformer la tragédie en triomphe en s'attaquant au changement climatique. Sir David, 95 ans, a prononcé un discours passionné dans lequel il a averti que l'humanité était, je cite, déjà en difficulté.
If working apart, we are a force powerful enough to destabilize our planet, surely working together, we are powerful enough to save it. In my lifetime, I've witnessed a terrible decline. In yours, you could and should witness a wonderful recovery. That desperate hope, ladies and gentlemen, delegates, excellency, is why the world is looking to you.
En Australie maintenant, avec le Covid-19, les restrictions de la Nouvelle-Galles du Sud qui devaient être levées pour les personnes vaccinées le 1er décembre ont été avancées au 8 novembre et les restrictions pour les personnes non vaccinées qui devaient être levées le 1er décembre ont été repoussées au 15 décembre ou lorsque l'État atteint un objectif de 95%. Le chef de Nouvelle-Galles du Sud, Dominique Perrottet, a également annoncé que les personnes entièrement vaccinées pourront recevoir un nombre illimité de visiteurs chez elles. Les lieux d'accueil peuvent accueillir plus de gens et les discothèques vont rouvrir pour pouvoir danser.
We want to make sure as we open up safely. Vaccination rates have been key. Ultimately, though, we want to get to a point where New South Wales is open, one and free, and we believe that the changes we've made today enable that to occur.
La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 173 nouveaux cas de COVID-19 et 4 décès ce mardi. Et dans le Victoria a enregistré 989 cas de COVID-19 et 9 décès ce mardi. Les injections de rappel COVID-19 pourraient être mélangées à des vaccins contre la grippe à l'avenir. Les Australiens recevant un rappel combiné une fois par an. Des chercheurs de l'Université de Monash affirment que les producteurs de vaccins pourraient potentiellement créer un vaccin pan-coronavirus qui donnerait aux gens une large protection contre la majorité des variantes. Ils disent également que le COVID-19 entre dans sa phase endémique. Les gens auront probablement besoin de vaccins de rappel pour le COVID-19 et les virus de la grippe chaque année. Et puis, plus de 5 millions de personnes sont décédées du COVID-19 dans le monde au cours des 19 derniers mois. Les chiffres de l'université Johns Hopkins aux États-Unis révèlent qu'il y a 4600 décès chaque jour et 306 000 nouveaux cas à travers le monde. Aux États-Unis, plus de 745 000 personnes ont péri, ce qui en fait le pays avec le plus grand nombre de décès enregistrés. L'Organisation mondiale de la santé estime que le nombre réel de morts pourrait être 2 à 3 fois plus élevé que les chiffres officiels. L'administration Biden prépare et expédie des millions de vaccins COVID-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. La Maison-Blanche a déclaré que des injections pourraient commencer à être administrées aux enfants dans les prochains jours. Le coordinateur du gouvernement pour le coronavirus, Jeff Zients, a déclaré que le pays disposait d'un stock de vaccins suffisant pour vacciner tous les enfants éligible. Et en vaccinant les enfants, les États-Unis visent à éviter une autre vague de coronavirus pendant les mois les plus froids avec l'hiver qui arrive.
We are not waiting on the operations and logistics. We've secured enough vaccine for all 28 million kids ages 5 through 11. Governors and leaders of tribes and territories have been working with their teams to ensure that doses are distributed efficiently and equitably across their jurisdictions. Over the next couple of days, several million doses will start arriving at local pediatricians and family doctors' offices, pharmacies, children's hospitals, community health centers, rural health clinics, and other locations.
L'ancien premier ministre australien Malcolm Turnbull a demandé à Scott Morrison de s'excuser auprès du président français Emmanuel Macron. Malcolm Turnbull a déclaré que la manière dont Scott Morrison avait mis fin à l'accord des sous-marins était honteuse. Scott Morrison insiste sur le fait qu'il n'acceptera pas d'être insulté après avoir été qualifié de menteur par Emmanuel Macron.
From my perspective, I must say that I think the statements that were made questioning Australia's integrity and the slurs that have been placed on Australia, not me, I've got broad shoulders, I can deal with that, but those slurs, I'm not going to cop sledging of Australia.
Un retour sur les faits, le président français Emmanuel Macron avait accusé le premier ministre australien Scott Morrison d'avoir menti au sujet de cet accord maintenant annulé avec la France. Les politiciens des deux principaux partis en Australie ont réagi avec le premier ministre par intérim Barnaby Joyce exprimant son soutien au premier ministre Scott Morrison. Il dit que le nouvel accord AUKUS avec le Royaume-Uni et les États-Unis est nécessaire pour assurer la sécurité de l'Australie. Le chef de l'opposition fédérale, Anthony Albanese, critique les actions du gouvernement, affirmant qu'il existe de réels problèmes dans les relations entre la France, les États-Unis et l'Australie. Retour sur cette interview de Emmanuel Macron par les journalistes de l'ABC et de SBS. C'était à Rome, au sommet du G20, dimanche.
Can you trust him, though?
I mean, we will see what you will deliver. I have a lot of respect for your country. I have a lot of respect and a lot of friendship for your people. I just say when we have respect, you have to be true and you have to behave in line and consistently with this value.
Do you think he lied to you?
I don't think. I know.
Et la réponse de Scott Morrison, qui rejette les déclarations de Emmanuel Macron.
No.
He also accused you. He says he doesn't think you lied to him. He knows you lied to him.
I don't agree with that.
He knows you lied to him.
Well, it's not true. We had dinner together, as I've said, on numerous occasions. I explained very clearly that the conventional submarine option was not going to meet Australia's interests.
Les Australiens sont encouragés à réfléchir à leur habitude de consommation d'alcool à l'approche des fêtes de fin d'année. Une nouvelle étude met en évidence les facteurs de risque associés à l'alcool et la démence, suggérant que les gros buveurs sont trois fois plus susceptibles de développer la maladie. Dr Louise Mutton, en charge de cette étude, affirme que de nombreux adultes ne se rendent pas compte qu'ils dépassent les directives de consommation à risque.
Well, the National Health and Medical Research Council recommends no more than 10 drinks per week and in a single sitting, no more than 4 drinks.
Un nouveau rapport montre que de nombreux Australiens se sentent mal à l'aise de travailler pour des entreprises qui ne prennent pas des mesures contre le changement climatique. Le dernier rapport Climat au travail suggère que 7 Australiens sur 8 pensent que les entreprises devraient faire davantage pour réduire leurs émissions et leur empreinte carbone. Elmo Software a commandé le rapport et son co-fondateur Danny Lessem affirme que le changement climatique pèse lourdement sur l'esprit des Australiens.
Australian workers are very concerned about climate change, and this is a clear warning to the business community that if they do not have positive policies around climate change, that they really risk losing employees and having problems or challenges in recruiting new ones.
Retour sur le dossier du climat, la COP26 à Glasgow. Le changement climatique veut dire la dégradation des plages. Et je vous propose ce reportage sur les plages mauriciennes où des murs ont été érigés. Explication de Abdullah Erali pour RFI.
Oui, c'est une érosion massive qui est en cours depuis des décennies dans l'île. Deux des plus grandes plages de Maurice, Montchoisy au nord et Flic-en-Flac à l'ouest, témoignent de cette dégradation. Les arbres emblématiques, par exemple, dans les zones côtières qu'on appelle ici les filaos, présents depuis notre enfance, leurs racines côté mer sont dénudées aujourd'hui. Et ces racines tiennent d'environ 30 cm en l'air. C'est-à-dire l'état de dégradation de certaines plages mauriciennes. Selon les données obtenues du ministère de l'Environnement, l'érosion provoquée par la montée des eaux a réduit la largeur de certaines plages de 20 mètres. 13 km du littoral de l'île sont dégradés, c'est tout de même 17% des côtes. Autre élément qui témoigne de l'élévation du niveau de la mer ici, les données du marégraphe installé à Port-Louis, elles indiquent que durant les trois dernières décennies, le niveau de l'eau a augmenté de 15 cm. Il y a du coup, en effet, une réelle inquiétude du côté des autorités que dans 50 ans, les plages mauriciennes soient englouties par la mer. Donc, prise de court, Maurice a choisi la solution de l'urgence depuis 3 ans. Elle érige des murs à l'aide de blocs de pierre et de béton sur le littoral. 21 sites ont été identifiés pour ces impressionnants travaux.
Et toujours dans l'océan Indien, le président des Seychelles, Wavell Ramkalawan, se dit terrifié par l'impact que le changement climatique aura sur son pays. S'exprimant à Glasgow au nom des nations insulaires vulnérables, il a averti les dirigeants mondiaux que la vie des insulaires était en danger.
Seychelles is a victim.
So are other small island developing states. We are already gasping for survival. When I hear the expression rise in sea level, I am scared the beautiful archipelago of 115 islands that we are today may be reduced to less than 50.
Coup d'œil météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 20 degrés, Adélaïde 33, Melbourne 30, Hobart 23, Canberra 24, Sydney 25, Brisbane 25 également, Cairns 31, Darwin 35 et à Alice Springs, maximal de 34 degrés. Un rappel des grands titres de ce 2 novembre, les Verts accusent Scott Morrison d'avoir menti aux dirigeants du monde sur l'action climatique de l'Australie pour éviter un examen international. Le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud annonce des modifications à la feuille de route de réouverture de l'État. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBSFrench
Journal des sports et on commence à venir avec du tennis. Cette semaine, c'est la semaine des Masters 1000 de Paris-Bercy et avec un grand favori pour ces Masters 1000, bien sûr Novak Djokovic et Greg Mamrut.
Le 12 septembre dernier, en finale de l'US Open, Novak Djokovic avait rendez-vous avec la gloire. Un 21e succès en Grand Chelem lui aurait offert le record absolu en la matière devant les 20 trophées de Roger Federer et Rafael Nadal. Sans compter un Grand Chelem calendaire inédit depuis 1969. Les quatre à la suite après l'Open d'Australie, Roland Garros et Wimbledon empochés quelques mois auparavant par le Serbe. Cette dernière marche vers le panthéon du tennis, l'inoxydable numéro 1 mondial l'a totalement raté. Trop de pression, Djokovic s'est curieusement muet en Djokoflop face à un Daniil Medvedev survolté et net vainqueur 3 fois 6-4. Mais à défaut de grand chelem et de gloire, Novak Djokovic a reçu un autre trophée ce jour-là, celui auquel il courait inlassablement peut-être depuis le début de sa carrière. Une immense ovation de la part du public new-yorkais. Surpris et ému, le Serbe a éclaté en sanglots dans sa serviette. Enfin, lui, l'éternel troisième dans les cœurs derrière Federer et Nadal, recevait une reconnaissance digne de son immense palmarès. De quoi largement compenser la blessure de la défaite. Novak Djokovic.
Évidemment que cette sensation et ce moment-là que j'ai voir à New York était vraiment très spécial. Je n'attendais pas ça parce que normalement n'était pas comme ça les derniers 15 ans. C'est vrai que je suis triste pour ce match-là et comme je jouais parce qu'il était un des plus grands matchs de mon carrière. Mais après, les victoires que j'ai reçues cette jour étaient victoires avec le public. Donc ça, c'est aussi très important pour mon caractère, pour mon état émotionnel. Donc j'espère pour utiliser cette belle énergie ici à Paris.
C'est donc plein de cette preuve d'amour que Novak Djokovic revient sur le circuit, prêt à de nouvelles conquêtes. Un sixième sacre à Bercy cette semaine, tenter de terminer l'année numéro 1 mondiale pour la 7e fois de sa carrière, record absolu, en attendant l'an prochain le fameux 21e trophée en Grand Chelem. Reste que l'image de Djokoflop à New York a peut-être aussi donné des idées à ses adversaires. Le Serbe est-il plus vulnérable qu'avant ? Pas du tout, pense le français Gaël Monfils.
Moi, je le vois toujours comme une légende. Hein. Je le vois quand même comme quelqu'un d'exceptionnel. Il perd en finale sur Daniil qui a joué extrêmement bien, qui a perdu très très peu de matchs et qui est numéro 2 mondial. Donc, Novak, c'est toujours Novak, c'est toujours une machine. Et voilà, je pense qu'il faut pas oublier qu'il a gagné 3 grands chelems et fait finale dans le dernier. Donc, c'est toujours le même, quoi.
Et le meilleur moyen de prouver qu'il est toujours Joe Cosmic serait pour lui de battre Daniil Medvedev en finale dimanche prochain pour une cinglante revanche, le Russe tenant du titre à Paris-Bercy.
Eric Mamrut, également réaction sur cette venue de Novak Djokovic à Paris, celle de l'organisateur du tournoi, le directeur du tournoi Guy Forget.
Je crois qu'aujourd'hui, Novak, il l'a exprimé hein, d'ailleurs devant vous depuis pas mal de temps. Il est là, il veut battre des records, il veut finir l'année numéro 1 mondial, il veut dépasser le record de Rafa et de Roger en victoire en Grand Chelem. Et d'ailleurs, je pense qu'une des raisons pour lesquelles il est ici, c'est parce qu'il veut s'assurer de finir l'année numéro 1. Novak, il est aujourd'hui, il a gagné 3 des 4 grands chelems. C'est prodigieux la saison qu'il fait une nouvelle fois. Donc, on est ravis de l'avoir. Voilà. Pour répondre à la question, on est ravis de l'avoir ici. Il a déjà gagné à 5 reprises, je crois, c'est ça. Il part pour un 6e titre.
Ouais, donc, Guy Forget sur Novak Djokovic. Une autre belle performance, eh bien, c'est celle de Hugo Gaston. Le Français avait brillé à Roland-Garros déjà. Eh bien, Paris semble lui réussir, Eric Mamrut.
Hugo Gaston, qui apparemment, dès qu'il joue à Paris, fait des miracles. Il s'était révélé, souvenez-vous, l'an passé à Roland-Garros, lorsqu'alors totalement inconnu, il avait atteint les 8e de finale à la surprise générale. Le toucher de velours de ce petit Toulousain de 20 ans avait alors enthousiasmé. Mais depuis, Hugo Gaston n'avait pas véritablement renouvelé de tels exploits, se hissant à peine tout récemment parmi les 100 meilleurs joueurs mondiaux. Et voilà qu'il vient d'aligner aujourd'hui à Bercy son 3e succès d'affilée en battant son compatriote le français Arthur Rinderknecht, pourtant bien mieux classé de lui. Succès en 3 manches pour Gaston, 4-6-6-4-6-3, qui s'était extirpé des qualifications ce week-end en battant 2 très bons joueurs, le sud-africain Kevin Anderson et l'italien Lorenzo Musetti.
Allez, on parle de football maintenant et la 12e journée du championnat de France de football. Et les résultats de cette 12e journée, le Paris Saint-Germain qui bat Lille sur le score de 2-1, mais et Saint-Étienne se tiennent en échec sur le score de 1 partout. Lyon balance 2-1. Nice va battre Angers sur leur terrain sur le score de 2-1. Carton plein pour Strasbourg, 4-0 face à Lorient. Bordeaux bat Reims sur le score de 3-2. 3 fait match nul contre Rennes sur le score de 2 partout. Montpellier-Nantes se finit avec la victoire de Montpellier sur le score de 2-0. Brest bat Monaco sur le score de 2-0 également. Et le dernier match de cette 12e journée, c'était Marseille en déplacement à Clermont. Et bien, les Phocéens ont battu le club de Clermont sur le score de 1-0. Retour sur ce match avec Sarah Lou Bacouche.
C'est l'OM qui a refermé cette 12e journée par une victoire 1-0 face à Clermont sur un but du Turc Under, ce qui replace Marseille à la 3e place du classement. Capitaine ce dimanche en Auvergne, le milieu Boubacar Camara était très heureux que son équipe renoue avec la victoire après 2 nuls face aux 2 premiers justement à Paris et contre Nice.
Ça fait longtemps qu'on ne gagne plus. Là, on avait à cœur de gagner et on l'a fait. Ça a été un match difficile avec beaucoup d'engagement contre une équipe coriace, mais on a su marquer et après, on va dire, bien gérer le match. Le coach nous dit de tenter et d'oser. Et c'est notre manière de jouer, c'est notre philosophie, donc on ne la lâchera pas. Après, c'est à nous de bien récupérer, de faire les soins et de bien écouter le staff pour être au maximum à chaque match.
Le Phocéen Boubacar Camara, et c'est donc Nice hein, hier qui est devenu le nouveau dauphin du PSG avec 23 points au compteur en battant Angers 2-1.
Voilà donc Sarah Lou Bacouche pour l'Olympique de Marseille. Elle est un dernier point sport pour aujourd'hui. Il est à 1000 jours des JO de Paris. Les Paris 2024, il y avait une course à pied à Paris pour commémorer justement ces 1000 jours. Hugo Moissonnier.
Au pied de l'Arc de Triomphe, près de 3600 coureurs du dimanche viennent chercher leur précieux dossard.
22-21, bonne course à vous.
Leur piste, la plus belle avenue du monde, leur adversaire, le marathonien le plus rapide de tous les temps.
On sait tous qu'on peut pas rivaliser avec lui, mais l'objectif c'est d'être là et de participer, quoi, de faire la fête.
C'est parti pour 5 km de course. L'objectif, ne pas se faire dépasser par la vedette. Un Kipchoge intouchable en théorie, mais forcé ce dimanche de partir après tout le monde. Des coureurs et des coureuses de la vie de tous les jours profitent de cet avantage et parviennent à franchir la ligne avec un immense sourire sur le visage à l'image d'Afef.
Super contente et de battre un champion, même si on sait que peut-être il a ralenti pour nous, mais... Et surtout,
d'être là pour les JO 2024.
Et Eliud Kipchoge a lui aussi apprécié cette matinée parisienne.
3600 personnes qui tentent de gagner leur place pour 2024, qui ont travaillé dur pour y arriver, c'est vraiment spécial. C'était très très cool de voir tous ces gens faire autant d'efforts pour franchir la ligne d'arrivée.
Et que les déçus de ce dimanche se rassurent, à l'avenir, ils auront d'autres occasions de gagner leur dossard pour le marathon des prochains Jeux.
Voilà donc pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour le reste de l'émission. A tout de suite.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Allez, comme chaque mardi, il est temps maintenant de passer à l'actualité en France. 7 jours d'actu en France avec Émile Matasso.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Alors à la une, eh bien, le retour de l'inflation en France.
Et oui, l'inflation, les prix à la consommation ont augmenté en France de 2,6% en un an, donc sur les 12 derniers mois, chiffre publié par l'INSEE, l'Institut National de la Statistique, ce vendredi 29 octobre. Plus 2,6%, en soi, cela n'a rien d'exceptionnel, si ce n'est qu'une telle hausse en un an n'avait pas été enregistrée depuis plus de 10 ans, depuis 2008, au moment des soubresauts et des conséquences de la crise financière mondiale qui avait ébranlé le monde. Là, la période a de particulier que nous sortons d'un an et demi de pandémie Covid-19 où tous les repères ont été chamboulés, et cela vaut pour l'économie, tous les mécanismes de la production à la consommation qui ont volé en éclats avec la pandémie. Et dans un pays comme la France, la croissance économique, elle est repartie de bon pied depuis plusieurs mois maintenant, mais cette reprise de l'activité s'accompagne, et ce phénomène-là n'était pas forcément attendu, cette reprise s'accompagne d'une inflation plus forte que prévue, hausse des prix significative. Cette inflation, on la retrouve dans les pays voisins, hein, en Allemagne, plus 4,5% en un an, en Espagne encore plus 5,5%, phénomène que l'on observe aussi outre-Atlantique du côté des États-Unis. Cette tendance, elle inquiète les gouvernements, c'est le cas en France, nous allons le voir, avec ce spectre de retomber dans une spirale comme l'ont connu les plus anciens dans les années 70, au moment des chocs pétroliers, quand l'inflation était supérieure à 10% par an, 13% d'inflation en moyenne entre 1974 et 1981. Car si les prix augmentent, c'est moins de pouvoir d'achat pour les ménages. Et donc cette inflation, elle pourrait rapidement gripper la croissance, la reprise économique. C'est mécanique. Hausse des prix, moins de pouvoir d'achat, à moins que les salaires augmentent, mais a priori, ce n'est pas à l'ordre du jour. Moins de pouvoir d'achat et donc moins de consommation de la part des ménages.
Comment s'explique-t-elle cette inflation en France et dans tous les pays que l'on vient de nommer ?
Bien, c'est assez simple, on l'a dit, la pandémie Covid-19 a mis à plat tous les circuits économiques, des entreprises obligées de fermer plusieurs semaines dans quasiment tous les pays, parce que la population était confinée et qu'il n'était plus possible d'aller au travail. Les réseaux de transport qui étaient paralysés, à l'arrêt, hein, depuis un an et demi, les liaisons aériennes à l'intérieur même des pays, mais aussi d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Ces liaisons aériennes sont arrêtées, elles reprennent tout juste, la fermeture des frontières qui ont été pendant de longs mois imposées. Idem pour le train, chaque pays s'est replié sur soi en essayant de gérer comme il le pouvait cette pandémie. Et aujourd'hui que les populations sont vaccinées en majorité et que l'horizon se dégage quelque peu, on se rend compte, bien qu'on ne peut pas relancer d'un coup de baguette magique, toute cette chaîne économique gigantesque, hein, ce village universel qui était devenu la planète, relancer la production, relancer les usines, tout cela a engendré, eh bien, une explosion des coûts de l'énergie, car tout le monde veut reprendre en même temps. Le système, il était grippé, on veut reprendre très vite, très fort, en Chine, aux États-Unis, en Europe, et la demande donc des entreprises est trop forte. Pression sur le marché de l'énergie, pression sur le marché des matières premières. Dans de nombreux secteurs, il y a des pénuries, hein, telle ou telle pièce qui n'arrive pas à la commande, les semi-conducteurs qui alimentent tous les circuits électroniques de votre voiture à votre appareil électroménager, tous ces composants nécessaires pour fabriquer un téléphone ou un ordinateur, eh bien l'offre ne suit pas, tout est désorganisé et sur le marché, marché de l'offre et de la demande, les pièces manquant, tout devient plus cher. Il devient plus cher à un constructeur automobile de faire sortir de son usine une voiture. Donc le surcoût par rapport à avant le Covid, le surcoût, eh bien, il est répercuté en bout de chaîne sur le prix de vente et c'est le consommateur qui en fait les frais. C'est ce mécanisme-là appliqué à grande échelle qui génère en ce moment de l'inflation en France et un peu partout dans les pays que nous avons cités tout à l'heure. Pourtant, l'inflation, oui, elle était jugulée depuis la fin des années 90, une inflation autour de 2% par an, avec des années même en dessous de 1%. Là, un nouveau cycle avec retour de la hausse des prix est peut-être en train de s'ouvrir et cela inquiète au plus haut point, les gouvernants, les politiques.
Et quelles sont les réponses qu'envisagent les entreprises et le gouvernement, d'ailleurs, pour contrer ce retour de l'inflation ?
Bien, il n'y en a pas 36, comme on dit, des solutions. Si cette inflation, même si, attention, hein, rappelons-le, on parle pour l'instant, en France, d'une hausse des prix de 2,6% en un an, pas plus. Mais si le phénomène venait à se confirmer et à se renforcer, ce que n'exclut pas nombre d'économistes, la seule façon d'y répondre pour que les Français, les particuliers puissent garder le même pouvoir d'achat, eh bien ce serait d'augmenter les revenus, les salaires. Or, pour l'instant, il n'en est pas question, que ce soit dans le privé ou dans le public, la priorité est de relancer l'activité, relancer la production. Pour augmenter les salaires, il faut des marges. Et si on parle des millions de fonctionnaires, ce sera de l'argent public, de l'argent de l'État. Or, depuis le début de la pandémie Covid-19, les déficits de l'État en France, ils se sont creusés dans des proportions abyssales avec la politique assumée du président Emmanuel Macron et du gouvernement, de ses ministres, de soutenir les entreprises, les salariés, même durant les mois de confinement, quand les magasins, les cafés, les restaurants, etc. étaient fermés. Eh bien, c'est l'État qui a pris le relais pour payer les salaires, la fameuse politique du quoi qu'il en coûte, aider les entreprises, les commerçants, les salariés, quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, le gouvernement, oui, cherche à sortir de cette séquence qui a coûté très cher. Donc non, il n'est pas question d'augmenter significativement les salaires, ça n'est pas le moment. Dans l'absolu, l'exécutif, il aimerait que les Français eh bien, utilisent leur épargne, l'argent mis de côté, pour continuer de consommer sans calcul. Car depuis un an et demi, corollaire là aussi de la pandémie, bien les Français, ils ont épargné comme jamais. Ils ne partent plus en vacances, plus de sorties, plus de cinéma, plus de restaurants, même si cela reprend tout doucement. Cela a permis en un an et demi à une bonne partie de la population, celle qui avait un peu de marge, de mettre de l'argent de côté. Et pour l'heure, bien les enquêtes d'opinion, les chiffres de l'INSEE le montrent, les Français n'ont pas l'air très pressés dans l'idée d'aller piocher dans cette épargne-là. Ils préfèrent garder cet argent au chaud, préférant jouer la prudence ou attendant que l'argent vienne d'ailleurs, comme ils en ont pris l'habitude de l'État peut-être. Les subventions de l'État pour le prix de l'électricité et du gaz qui ont été décidés ces dernières semaines, subventions encore annoncées par le gouvernement avec le chèque de 100 euros que devraient toucher quelques 38 millions de Français, 100 euros pour répondre à l'augmentation des prix du carburant. Les syndicats qui ont embrayé le pas et qui réclament une augmentation des salaires, tout cela dans un contexte, on en parle chaque semaine, de campagne présidentielle. L'élection présidentielle de 2022, elle est dans toutes les têtes. Le gouvernement, d'un côté, veut siffler la fin du quoi qu'il en coûte, mais d'un autre, de l'Élysée à Matignon, on craint plus que tout que cette question de l'inflation, la hausse des prix, la baisse du pouvoir d'achat, que toutes ces questions explosent socialement dans la rue. La route est encore longue d'ici le mois d'avril et le premier tour de l'élection présidentielle.
Merci Émile d'avoir décrypté l'actu en France pour nous cette semaine.
Merci, merci. À bientôt.
Détendez-vous en découvrant la musique du monde sur SBS Chill. Sur votre télévision et votre radio numérique, en ligne et sur votre smartphone. sbs.com.au/chill. Vos conversations. SBS French.
Eh bien, le plaisir d'avoir Johanna Durand qui est la directrice de l'Alliance française de Melbourne. Bonjour et bienvenue à nouveau sur SBS French, Johanna.
Merci beaucoup Jean-Noël, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce jour et ce moment particulier pour la ville de Melbourne sous le signe de la Renaissance et de la liberté.
On va peut-être commencer par les classes pour enfants avec ce retour en face à face à St Kilda à partir du 6 novembre prochain.
Exactement, ça va être un moment historique pour tous les Melbourniens qui ont été en confinement pendant une période si longue. Et donc, on peut dire qu'on s'est bien préparé à la réouverture et qu'on sera ravis d'accueillir les enfants, les familles, à partir effectivement du 6 novembre sur le site de Sainte Kilda, avec toutes les mesures de sécurité sanitaire requise. On vous attend avec impatience et avec de jolies surprises ouais. Pour les enfants. Et puis pour les adultes, il faudra patienter jusqu'à la rentrée de janvier.
Mais il y a quand même des cours en ligne pour les adultes et les adolescents jusqu'en décembre prochain.
Absolument. Et je suis ravie de vous annoncer les derniers chiffres. Donc, l'Alliance française de Melbourne a réussi à maintenir autant d'élèves qu'en 2019. Donc, je tenais à adresser un sincère merci à tous nos membres, nos étudiants, nos amis et puis les équipes de l'Alliance française de Melbourne qui ont réussi à se réinventer. Donc ça va être une belle renaissance et on va toujours continuer les cours en ligne bien sûr, à la fois pour les adolescents et pour les adultes. Donc on ne vous lâche pas. Donc pour ceux qui souhaitent continuer en ligne, donc nous avons les Express B qui sont les cours qui commencent. Donc il faut s'inscrire cette semaine et la semaine prochaine puisque ça commence le 8 novembre. Donc, il faut se dépêcher pour les débutants, les intermédiaires ou les niveaux les plus avancés. Donc, il y a tout un tas de cours qui ont été dessinés sur mesure pour les Melbourniens, notamment celui qui est le French for Travelers. Donc, ça, c'est le retour de ce cours tant attendu pour préparer vos voyages en France ou dans l'espace francophone, qui est à la fois une inspiration, un accompagnement, une aide, aide, des partages de bons conseils, de bons endroits. Donc, à la fois, vous améliorez votre français et en même temps, des petits tips pour voyager, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou à Paris. Donc, vraiment, je vous invite. Et puis, même si vous ne prévoyez pas tout de suite d'aller en France, ça fait du bien de rêver de façon un peu plus concrète et de planifier son voyage, puisque il faut le prévoir en avance. Donc, on a le French for Travelers. On a aussi un très, très beau cours. Alors là, sur Coco Chanel, oui. Qui est lié à l'ouverture de l'exposition à la Galerie nationale du Victoria. Donc, là, une autre façon de rêver autour de la mode, du textile et puis d'une personnalité, d'une créatrice emblématique, Coco Chanel. Donc, ça va être très, 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 très beau. Et puis, vous retrouverez des apprenants de français passionnés, une enseignante du tonnerre et donc des bons moments, des très bons moments en perspective. Et le dernier cours qu'on a en express, donc sur 5 semaines, c'est autour des révolutions féministes. Donc ça, c'était à la demande de nos étudiants après les cours de philosophie, les cours sur les révolutions féministes. Donc une manière d'apprendre plein de choses sur ces personnages célèbres ou moins célèbres, et puis des petites anecdotes croustillantes pour apprendre, pour le plaisir d'apprendre et pour briller aussi lors des barbecues estivaux. Ce sera l'occasion d'échanger. Ça va être bien agréable. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire cette semaine pour les cours express qui commencent le 8 novembre.
On va peut-être aborder le plan culturel maintenant. On va commencer peut-être par ce concours pour gagner un livre, How to French Country. Désolé, c'est le titre en anglais.
Et oui, c'est le titre en anglais. L'événement est en anglais, donc c'est un petit peu ironique, mais parfois les Australiens sont nos meilleurs ambassadeurs. Donc il s'agit du lancement d'un livre, donc avec un concours de photographie également, donc qui a lieu pendant les 15 prochains jours et qui va être une autre manière de rêver. Donc c'est une Australienne installée en France et qui nous fait découvrir le décor, l'envers du décor et le décor de sa vie française. Donc c'est très drôle, c'est très pimenté, ça donne de l'inspiration, des idées, ça fait un joli changement, et puis ça peut être un beau cadeau pour Noël. Donc, je vous invite vivement à venir y participer. C'est en ligne, oui. Le concours, sur les 15 prochains jours.
Et puis, pour ceux qui aiment Astérix et Obélix, il y a cette possibilité de suivre un Zoom, un Q&A avec le scénariste Jean-Yves Ferry, prévu pour le mardi 8 novembre prochain.
Oui, absolument. Et ça va être un bon moment, je pense, pour les familles. C'est l'occasion de partager ça avec vos enfants, vos adolescents. Donc, c'est une chance d'avoir Jean-Yves Ferry en direct, en français, pour le public australien. Et donc, il va nous parler d'Astérix et de ce personnage qui a bercé notre jeunesse. Et c'est un petit clin d'œil. Je sais que ces ouvrages sont très bien distribués chez Intext, dans toutes les bonnes librairies australiennes. Donc, c'est pareil, ça va être l'occasion de le découvrir sous un autre angle. Donc, ça va être une belle conversation.
Et ensuite, ce voyage virtuel pour découvrir Caen en Normandie, c'est le vendredi 16 novembre.
Absolument. Comme vous savez, on a commencé une série de voyages virtuels où on a rendez-vous dans différentes villes françaises. La dernière fois, c'était Bordeaux. Et cette fois-ci, c'est Caen, qui est à 2 heures seulement de Paris. pas très loin de la mer. Et donc, c'est l'idée de, voilà, de découvrir pour préparer peut-être un voyage ou une escale la prochaine fois que vous viendrez en France. Donc, vous avez tous les petits conseils, des idées, des bonnes adresses, des tables, etc. À partager, à échanger, partager entre voyageurs, entre rêveurs, et puis avec un accompagnement d'une de nos enseignantes de français, et c'est en partenariat avec l'Office du tourisme de Caen.
Et ensuite, on ne va pas oublier le rendez-vous annuel pour le concours Berthe Mouchette et la remise des prix le 23 novembre prochain.
Absolument. Cette année encore, pour la 128e édition, je crois, le concours de poésie Berthe Mouchette a résisté. Et on était ravis d'avoir plus de 10 000 élèves qui ont participé dans le Victoria à ce concours de poésie. Donc effectivement, ce sera pour cette année et pour la dernière fois, j'espère, une remise des prix en ligne. Et ça va être l'esprit de Berthe Mouchette, et cet amour de la poésie, le partage sera bien présent. Et je vous promets qu'il y aura d'autres fêtes et d'autres moments de célébration en face à face en tout début de 2022. Donc, un petit peu de patience, je dirais.
Puis ensuite, j'imagine qu'on va peut-être prendre note que l'Alliance française French Film Festival arrive assez rapidement. C'est en mars de 2022. Et déjà, vous êtes en train de discuter la sélection des films et les films d'ouverture, de clôture et tout ça.
Ah oui, mais je ne vous dirai rien, Jean-Noël.
Non, c'est un secret.
je vous inviterai, si vous n'avez pas vu ou si vous voulez plutôt revoir le film d'ouverture du Festival du film français en Australie 2021, il y a le film Eiffel qui sera dans les cinémas dans deux jours. Oui. Donc, je vous invite à le voir ou à le revoir. Donc, à partir du 29 octobre dans les cinémas, le film Eiffel. Pour ce qui s'agit de la sélection 2022, nous avons notre excellente attachée culturelle Karine Maurice qui est en train de travailler effectivement sur la programmation. Et je peux seulement vous dire que ce sera en mars 2022, ce qui n'est pas vraiment une surprise puisque c'est notre grand rendez-vous annuel, mais on sera ravis. Et bien sûr, pour tous nos amis entrepreneurs, chefs d'entreprise dans le Victoria qui souhaitent soutenir le Festival du film, n'hésitez pas à vous rapprocher. C'est un bon moyen de promouvoir votre marque ou de travailler le relationnel avec vos clients. Donc, on est toujours en recherche de sponsors et de soutien pour le Festival du film français.
Donc, on conseille aux gens qui nous écoutent de garder l'œil aussi sur le site de l'Alliance française de Melbourne, afmelbourne.com.au.
Exactement, Jean-Noël. Et puis, le dernier événement que nous aurons cette année, il s'agit, alors c'est vraiment dédié pour les scolaires, mais je voulais le mentionner parce que c'est un événement qui me tient beaucoup à cœur, c'est Science en Fête. Donc en partenariat avec le CNRS, qui est le Centre National de la Recherche en France, et l'Université de Melbourne. Donc, on va avoir une série d'événements et de conférences dans les collèges et lycées du Victoria pour discuter autour de la recherche, des métiers de la recherche. Et c'est un événement qui est très, très populaire en France, qui célèbre ses 30 ans. Et à cette occasion, nous aurons le plaisir d'offrir à tous les élèves de ces écoles. Donc, on a plus de 2000 bandes dessinées, donc dans l'esprit d'Astérix, mais qui s'appelle Science en Bulle, qui sera offert à chaque élève du Victoria. Donc, une bande dessinée en français autour de la recherche scientifique. Et on espère que c'est les 30 ans en France de cet événement, mais on espère que cette première édition à Melbourne aura de longues années devant elle, puisque c'est un, voilà, c'est un bel événement pour inspirer les vocations et les vocations féminines notamment. Donc on boucle la boucle entre les révolutions féministes et la bande dessinée. Je voulais absolument placer la fête de la science et Science en Bulle.
Pour un plaisir de vous avoir sur les ondes de SBS French, Johanna, et à très bientôt.
À très bientôt, Jean-Noël. Au revoir.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir confondu les coquins dans une histoire un peu triste, tout s'arrange à la fin.
Et voilà, avec Ronnie Théophile, je vous dis au revoir, à jeudi prochain à partir de 13h. Vous écoutez bien sûr Les Comédiens. À bientôt, belle journée.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.